C'est pas pour dire. Une émission de la compagnie La Lune Rousse, présentée par Charles Cécile.
I still have a dream.
Au 21e siècle, qu'est-ce qui pousse encore les gens à dire ou à écouter des contes, des poèmes, des épopées, des histoires de bonnes femmes? Quand les déesses s'appellent Nintendo et que Midas change votre peau, au temps du storytelling et des gestes barrières, de Netflix et du binge-watching au 21e siècle, quoi? C'est pas pour dire, mais... toutes ces histoires, à quoi ça sert? C'est pas pour dire, une enquête de Charles Cécile au pays des conteurs.
Le drôle de gars dont je veux vous parler, vous l'avez pas connu? Eh bien, moi non plus. Mais il a vraiment existé. Alexis dit le trotteur. Car cet homme, bon comme le pain, courait plus vite que le vent. Hey, c'était-il un homme ou un centaure? Chose certaine, on l'appelait le cheval du Nord! Allez, mon Alexis! Ah, le monde riait de lui, mais l'invitait partout. Il aurait battu tous les records du temps. Il a couru contre les plus grands chevaux trotteurs, les a tous vaincus, mais les a aussi guéris. Un monstre cyclope lui a passé sur le corps. Le bout en train est à son dernier sommeil, couché sur les dormants. Mais... paraît-il qu'il n'est pas mort.
Salut, c'est Charles Cécile. Alors, pardon pour le cliché, mais c'était plus fort que moi. Allez, on traverse l'Atlantique, on va à Montréal manger une soupe chez Marie-Fleurette Baudouin. Cette dame-là, on la connaît pour avoir dirigé pendant 20 ans les éditions Planète Rebelle. Mais on sait moins que dans une première moitié de sa vie, elle a planté des milliers d'arbres. Une vraie militante de la vie et des histoires. Je laisse donc le micro à Anne-Gaëlle et à Marie-Fleurette.
Il y a écrit sur ton mur, quand on a derrière soi toute la beauté du monde, que reste-t-il devant? De l'autre côté du pire, t'attend l'amour.
J'ai écrit ça quand, après mon opération. Ah. J'ai trouvé ça dans une revue. Je me souviens. Ouais, c'est ça, j'ai cru des trucs.
Ça sent encore la soupe qu'on a mangée l'autre soir. Ah, ça sent les légumes. Ouais, ça sent les légumes.
J'ai pas aéré.
Je pensais que c'était un pistou et toi, tu disais que c'était une recette de.
Non, c'est Caspésie. Une recette de c'est une soupe aux légumes acadienne.
Acadienne, c'est ça.
La soupe maison aux légumes. Ah. Et la recette, j'ai pris dans un petit journal acadien quand j'étais à Moncton en 2018. En 2019.
En tout cas, elle était délicieuse.
Ah oui.
Ça faisait du bien de sortir de l'avion et de
ben ouais.
Se poser chez toi, manger une soupe. C'était parfait.
Ben oui.
Bon, voilà, on recommence.
Alors, je te rebranche. Hop. Et voilà. Marie-Fleurette Baudouin, bonjour.
Bonjour.
On est à Montréal. Moi, c'est un événement pour moi. Et on est chez toi.
Et chez moi.
Voilà. On s'est rencontrés il y a deux soirs, et je me suis dit, oh, ça serait vraiment trop bien de t'entendre parler de ton parcours et puis de ce que tu as fait là pendant combien d'années?
Pendant 20 ans.
Avant
exactement.
De diriger...
J'étais journaliste. J'ai dirigé des revues pendant pendant près de 15 ans, avant de racheter Planète Rebelle au compteur André Lemelin, qui est le fondateur de, des éditions, avec l'intention qu'il avait au départ, c'était de publier les compteurs et compteuses. C'était le début, hein. on parle des années 97, 98, 99, c'était vraiment le début du renouveau du conte au Québec. Ouais. C'était vraiment les premiers conteurs, les premiers spectacles, les premiers événements.
Donc dis-moi, comment ça se passe? Toi, tu fais des études de quoi? De lettres?
Pas du tout. En fait, je suis botaniste spécialisée en foresterie urbaine.
D'accord.
Et j'ai dirigé les collections d'arbres et d'arbustes au Jardin botanique de Montréal pendant 18 ans.
D'accord. Et un jour, quoi, tu écoutes une conteuse, un conteur?
J'étais amie avec Marc Laberge, qui est le fondateur du Festival interculturel du conte de Montréal. Donc, c'était un copain. Ouais. Et donc, je le voyais dans le cadre de repas, de fêtes, etc. Puis un jour, il me raconte qu'il est allé à Grenoble, où il y a un gros festival de contes, et il y avait un micro ouvert, il a gagné. Alors là, c'est une grande gueule, hein. On dit ça ici au Québec.
Ouais,
c'est-à-dire,
Marc,
il nous racontait plein de choses parce que c'est un gars qui voyageait beaucoup, donc qui avait plein d'histoires tout le temps. Mais là, du conte. Fait que là, on a fait un. Et puis, oui, là, il nous a raconté son conte. On a trouvé ça très. On a bien rigolé avec ça. Et quelques mois après, donc, c'était en 93. En 1993, il me dit, je fonde un festival et j'ai besoin, est-ce que tu serais intéressé à faire partie de mon conseil d'administration? Parce que je crée un OBNL, donc un OBNL, c'est un organisme à but non lucratif pour... Ouais. Le festival.
Alors, tu écoutais déjà des contes?
Non,
pas plus que ça.
Pas plus que ça. Moi, les contes, au Québec, on a un immense patrimoine traditionnel de contes. Mais moi, de ma génération, j'écoutais des contes à la télévision. C'est Franck Freluche, Marie Quatre Poches. On écoutait La Boîte à Surprise qui nous racontait des contes.
À la télé?
À la télé. Mmh. Ma mère nous racontait des contes une fois par semaine. Le samedi soir, on était au salon, puis elle nous racontait, mais elle racontait la vie des saints.
Ah oui, t'sais. D'accord.
Oui, oui. Ben, il y avait des choses intéressantes, aussi, oui, c'est ça.
Et donc, toi, tu dis, je veux bien faire partie
de
la
truc,
mais parce que c'est un copain.
Parce que c'est un copain.
Okay.
Alors, je dis, OK, oui, je vais t'aider. Puis bon, il fallait qu'il y ait des gens sur son conseil d'administration. Donc, je pense que j'étais même la présidente. Et puis, c'est une autre copine qui était vice-présidente. Puis, un autre copain qui était administrateur. Là. On a vraiment fait ça. Et donc, en 1993, le premier festival, Marc, donc, programme des gens, surtout qui venaient d'ailleurs, hein, qu'il avait rencontrés en Europe, qu'il avait écoutés. Ouais. On prépare le premier festival et puis il a déjà un programme. Et puis bon, je me souviens qu'on a envoyé les premiers programmes à la main, on les pliait, on les mettait dans une enveloppe, on mettait les thèmes, on faisait tout. Hein.
Ouais.
Puis on allait porter les affiches et tout. Et puis à Montréal, il y a un circuit de ce qu'on appelle les maisons de la culture.
Ouais.
Chaque quartier a sa maison de la culture.
D'accord.
Et Marc a fait une entente avec eux et les premiers spectacles, les premiers festivals, tout se passait dans les maisons de la culture.
Dans chaque quartier.
Dans chaque quartier.
Ah, génial. Ouais.
Donc, ils faisaient une programmation sur une semaine. Et puis, dans les maisons de la culture, donc c'est les maisons de la culture qui achetaient au fond le spectacle, ouais. Donc qui étaient sûrs que les compteurs allaient être payés.
Ouais.
Puis ils faisaient l'ouverture, ils faisaient Nuit du Conte. Nuit du Conte qui commençait à vers 10 heures, puis qui finissait vers 2-3 heures du matin. Des fois, ça se prolongeait, mais...
Ouais.
Et puis ils faisaient aussi une soirée de clôture dans une salle de spectacle. Ben, c'est tout se passait dans les maisons de la culture, c'était sympathique parce que la première édition, donc en 1993, la nuit, donc la nuit du conte, il est 2h du matin, certains. On avait amené des sacs de couchage. On n'était pas nombreux, peut-être une trentaine de personnes dans un petit théâtre pour la nuit. Là, on n'était pas dans les maisons de la culture.
Les fous qui passaient la nuit.
C'est ça. Donc, ma fille était venue avec moi. Elle avait peut-être une dizaine d'années à l'époque. Ouais. Et puis là, on était là. Et arrive Jocelyn Bérubé. Jocelyn Bérubé qui était le seul à peu près qui restait à porter le compte. Alors lui, c'était un comédien mais qui avait créé une troupe de théâtre, comédien. Et Jocelyn, avec le grand cycle ordinaire, il comptait, puis il jouait du violon, il faisait plein de choses. C'était la belle époque, hein, c'était l'âge d'or, les années 70-80 au Québec. Ça a été l'âge d'or des artistes parce que c'était très populaire, ils étaient partout. Donc il faisait ça, c'est le temps aussi de Charlebois avec le Stitch Show et tout ça, voilà. Donc, Jocelyn arrive et il commence à raconter ses contes avec un musicien, un violoneux qui était Gilles Garand. Et là, il est 2h du matin, t'as entendu des contes. C'était avant, là, c'était la première nuit, donc c'était la première fois qu'on entendait les contards. Il n'y avait pas eu d'autres spectacles avant ça, donc. Et là, Jocelyn qui commence à raconter, et Jocelyn qui avait beaucoup de contes écrits déjà. Et Jocelyn, il écrit en rime. Donc, il écrit ses contes et c'est légende parce qu'il prend des personnages connus, des personnages populaires du Québec, donc que tout le monde connaît, puis il en fait des héros. Donc, il nous raconte Alexis le Trotteur. Alexis le Trotteur qui est dans un rythme. Puis là, on est là, endormi dans nos sacs de couchage, et puis là, c'est là.
Ah oui.
On rentre dedans, mais on rentre dedans, et puis là, Jocelyn, il s'allume sur scène, il est encore comme ça, il s'allume, même maintenant, il est dans 70 ans, il s'allume sur scène, c'est incroyable. Fait que là, à partir de ce moment-là, les compteurs, le compte, je me suis intéressée à ça, et ce que j'ai trouvé d'intéressant, parce que c'est ça, à chaque année, les premières années jusqu'en 95, c'est chaque année, il y avait un festival, et j'ai une copine, Petronella Van Dijk, qui a aussi créé le festival en Estrie, donc l'année d'après.
D'accord.
Donc là, on avait deux festivals assez importants et tout ça, donc il y avait vraiment du conte, et il y avait du conte qui se faisait aussi... dans un bar. Donc les gens allaient raconter l'homme. Ça, c'était pendant l'année. C'était pas trop connu, mais Marc, il me racontait qu'il lui allait là puis racontait ses contes. Comme ça, il apprenait des contes.
Mais à ce moment-là, Marie, il y avait beaucoup de conteurs au Québec.
Non, ça démarrait. Dans les conteurs au Québec, les premières éditions, il y avait Michel Faubert. Jocelyn Bérubé, Alain Lamontagne, Joujou Turenne, qui a commencé à raconter à ce moment-là, parce que ça l'intéressait. Qui est-ce qu'il y avait comme conteur? Sinon, les conteurs, ils venaient d'ailleurs. Je me souviens, dans la première, les premières éditions, il y avait Mamadou Diallo. On l'aimait d'amour. Hein. Il y avait, qui venait, Gude Després. Il y avait Patrick Ewen, Bruno de la Salle qui était venu aussi avec ses complaintes, je me rappelle. Donc c'était ça, c'était des grands, hein.
Des musiciens beaucoup.
Ouais.
Et des hommes là, il y a que des hommes dans ce que tu sais.
Ben il y avait Jocelyn Joujou Turenne et il y avait aussi Mimi
Barthélémy
qui était venue les premières dans les conteuses française, mais non, il n'y avait pas beaucoup de femmes, il y avait vraiment une majorité d'hommes. Et en 97, là, il y a eu les Dimanches du Conte qui se sont créés. Là, c'était tous les dimanches. Là, c'est là que les jeunes Québécois, les jeunes conteurs québécois ont commencé à raconter. Et là, il y en a eu, c'est là qu'ils ont émergé. On parle de François Lavallée, justement, Jean-Marc Massy, André Lemelin, René Robitaille, Claudette Lheureux, bon tout.
C'est créé. Est-ce que c'est créé une école ou des écoles du conte? Est-ce que les gens.
Ce qu'ils faisaient, c'était donc au départ, c'était des conteurs qui avaient l'habitude de la scène. Jocelyn Bérubé, puis Michel Faubert, ils faisaient déjà de la scène. Et là, en 97, quand se sont créés les Dimanches du conte, c'est ça qui était l'école. Tous les dimanches, il y avait des conteurs qui n'étaient pas là, professionnels, ils allaient raconter leur histoire. Et pendant la semaine, ils faisaient un souper, tout le monde ensemble. Ils faisaient ça chez André Lemelin, qui avait une grande maison. Donc, ils faisaient ça. Puis là, ils disaient leur histoire. Ouais, ouais, c'est ça. Mmh. Et c'est Claudette Lheureux qui faisait un peu... les analyses de ça et qui leur disaient non, ça tu dois travailler, puis tout ensemble. Donc super. Ça a été collégial et ils ont fait ça pendant plusieurs années au début, je dirais jusqu'aux années 2000-2002. On l'appelait la gang des Dimanches du Conte. Donc c'est là, ça a été leur école à eux. Et là, ils se sont mis à être invités non seulement dans les festivals comme Montréal, l'Estrie, il s'est créé aussi un festival à Trois Pistoles.
Celui dont tu parlais.
Ouais, à Trois Pistoles. Oh là là, c'est vraiment... Trois Pistoles, c'est loin, c'est dans le bas du fleuve. C'est dans un village, un gros village, là. Vous autres, vous appelez ça un gros bourg, là. C'est un festival qui durait 3 jours pendant la fin de semaine de l'Action de grâce en octobre. Et il y a eu les Îles de la Madeleine aussi qui s'est créé, Lévis qui s'est créé. Donc, il s'est créé Québec. Québec était le premier, mais moi j'ai pas connu, c'était avant 93. Québec, c'était au musée de la civilisation, et c'est eux qui ont fait venir les premiers conteurs qu'on a connus ici, là.
C'est peut-être vrai, c'est peut-être pas vrai, mais il paraît qu'au commencement, le créateur s'ennuyait.
C'est qu'il y avait rien, un grand rien tout noir. Et ça, le créateur a vite trouvé ça monotone. Ça fait qu'il a fouillé jusque dans le fond de ses poches. Il en a tiré une pièce d'argent. Il a posé sur le bout de son pouce. Il a posé sur sa langue une question. Il s'est demandé, est-ce que je devrais créer l'univers? Il a lancé la pièce, qui s'est élevée bien haut en tournant sur elle-même, qui s'est élevée en tournoyant, et qui n'est pas retombée. Non, la pièce est restée là, à spinner dans le grand rien, et tant qu'elle retombait pas, tout devenait possible. Peut-être qu'elle allait retomber d'un côté, ou peut-être de l'autre côté. Peut-être qu'elle allait retomber là où même le créateur n'allait pas la retrouver. Mais comme tout à coup, il y avait quelque chose en grand rien, comme tout devenait possible, le grand rien s'est mis à s'emplir de toutes les possibilités. On a vu apparaître des étoiles, des planètes. Parmi les planètes, la Terre. Sur la Terre se sont formées des montagnes, des océans. Sur la Terre est apparue la vie. Il y a eu des plantes, des insectes, des poissons, des dinosaures. Tout d'un coup, il n'y avait plus de dinosaures. Puis, il y a eu des humains. Et les humains, la nuit, ils levaient les yeux au ciel. Ils voyaient la pièce d'argent qui continuait à tourner sur elle-même tellement vite qu'on aurait dit une grosse boule argentée. Et ça, ils ont appelé ça la Lune. Et un jour, la pièce d'argent va bien retomber dans la main de son créateur. Qui aura alors la réponse à sa question, à savoir si c'était une bonne idée de créer l'univers ou non? Mais rendu là, la réponse lui sera inutile, parce que juste d'avoir posé la question, ça aura suffi à tout créer. Et pour l'instant, la Lune est là au-dessus de nos têtes. La lune de toutes les possibilités. La lune qui permet toutes nos histoires. Et ça tombe bien, parce que des histoires, j'en ai quelques-unes à vous conter.
C'est pas pour dire, à Montréal, entretien avec Marie-Fleurette Baudouin.
Donc les compteurs français.
Alors toi, donc du coup, tu assistes à ça, à tout ce
mouvement. Et puis moi, je fais du bénévolat. Donc je travaillais encore au Jardin Botanique à l'époque. En quelques années, après, je lui dis là, c'était petit, hein. Là, ça grossissait. Et puis on commençait à accueillir des vedettes. Je me souviens, c'est l'année de Catherine Zarkat et de Henri Gougaud. Là, là, on me disait, oh là, vous jouez gros, là, vous jouez dans les ligues majeures. Fait que là, j'ai dit à Marc, il faut les accueillir, ces gens-là. Ouais. Déjà, il avait fait une entente avec l'hôtel Saint-Denis, donc tous les compteurs étaient au même endroit. Donc ça créait des jeunes, un groupe, et donc les compteurs se voyaient.
Et toi, tu dis, oui,
il faut accueillir, il faut leur préparer. Là, on décide de faire une pochette, puis il fallait aller les chercher à l'aéroport. Donc, il engage deux personnes. C'est toujours aussi très convivial. Probablement qu'il ne les payait pas au début. Pour aller les chercher, puis on les accueillait, on leur donnait la pochette, une feuille de route, etc. On s'est professionnalisé, quoi. Et on a continué comme ça, et puis bon, les dimanches du conte se sont intégrés là-dedans, tous les dimanches, le spectacle c'était au sergent recruteur, c'était les dimanches du conte et tout, donc ça s'est étoffé. Au sergent recruteur, donc ça c'était le nom du bar. Ça s'est formé comme ça, et puis
Toi, tu étais toujours bénévole, tu n'avais pas quitté le jardin botanique.
Moi, j'ai quitté le jardin botanique en 95. J'écrivais déjà pour une revue de professionnels en horticulture, pépiniériste, paysager, c'est tout. Donc, deux revues, en fait, Québec Vert et Espace Vert. Donc, j'écrivais déjà, donc on m'a offert de diriger Québec Vert, qui était une revue pour professionnels en horticulture. Donc, j'ai accepté. Donc, j'ai commencé à faire ça. Et c'est ça, je travaillais avec des pigistes. En 1999, juste à l'aube de l'an 2000, Marc me dit, il faudrait faire un événement pour l'an 2000, etc. Est-ce que tu t'occuperais de faire un colloque? Alors, on va faire un programme, etc. Et puis, on prépare un gros colloque qui était, le conte à l'aube de l'an 2000. C'était surtout sur si tu veux faire un peu le bilan sur est-ce que le conte est encore d'actualité, qu'est-ce qui est devenu le conte traditionnel comme on pratiquait au Québec. Puis là, quelle est l'influence? Parce que, comme je te dis, on faisait venir beaucoup d'artistes d'Europe, d'Afrique aussi. Ouais. Il y avait toujours, c'est pour ça que c'est devenu...
Ça faisait 10 ans déjà pratiquement qu'il y avait une professionnalisation.
Donc, on a fait ce colloque-là sur 3 jours. Avec différents aspects, avec les médias, avec les jeunes, avec justement la contemporanéité du conte, la scène.
Et toi, là-dedans, tu t'es occupée
de l'organisation. Et à ce moment-là, on avait enregistré. Donc tout le colloque. Et je voulais, André Lemelin me demande, est-ce que tu veux écrire les actes de ce colloque-là, j'aimerais ça publier ce qui s'est dit, parce que c'était super intéressant, on avait abordé plein de choses. Fait que j'ai dit oui, j'ai travaillé donc avec André, ça c'était en 2001, et le livre est sorti en 2001, donc j'ai commencé en 2000, parce que le colloque était à l'automne 99. À l'an 2000, on a commencé, il avait fait transcrire, j'ai commencé à l'écrire, etc. Il y avait Christian-Marie Ponce, qui était prof de l'université en communication, qui s'intéressait beaucoup, c'était aussi le mari de Petronella Van Dijk en Estrie. Sous sa direction, on a fait les actes du colloque. Donc, j'ai travaillé avec André, et quelques mois plus tard, André me dit, écoute, moi, il va falloir que je me débarrasse de Planète Rebelle, parce que ça me prend tout mon temps.
Il était conteur.
Il était conteur.
Il avait pris la décision de faire ça pour faire connaître la discipline.
Il a fait... il s'occupait d'une revue de poésie. Il a commencé par la poésie, donc ses copains poètes, etc., sur le net.
D'accord.
Puis là, justement, en 97, il voulait justement faire publier un de ses livres, qui était Hold Up. Donc, il a demandé à des éditeurs québécois, puis personne ne voulait prendre le livre. Il a dit, Puis là, il a demandé à ses copains. Donc, au début, il a publié des romans, des nouvelles, des livres de poésie, les deux premières, jusqu'en 2000. Puis en 2000, c'est ça, là, il a publié son livre. Il avait publié son livre Hold Up, qui est des contes du Centre-Sud. C'est vraiment des contes... C'est vraiment gourde, là, tu sais. C'est des sans-abri, c'est des histoires, toujours très bien écrites.
C'est lui qui écrivait, c'était...
Puis André a écrit énormément, d'abord de la poésie, puis ensuite de la littérature et tout. Donc...
Il y a un moment où il décide que c'est...
écoute, moi je suis conteur, puis je veux continuer à compter, puis depuis que j'ai Planète Rebelle, je suis plus capable. C'est la gestion, puis si je veux faire des livres, il faut aller chercher des subventions. Fait que, il me dit, ça t'intéresse pas? Fait que là, j'ai dit, ben oui, ça m'intéresserait.
J'ai crevé l'oreiller. J'ai dû rêver trop fort. Ça me prend les jours fériés quand Gisèle clappe dehors. J'aurais pas dû ouvrir à la Roquine Carmélite. La mère sup m'a vu venir. Dieu avait mis un kilt. Il y a dû y avoir des fuites. Oh, oh, vertige de l'amour.
Je sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous sentir pas là. T'es pas là dans ton corps. T'es pas là dans ton âme. En fait, t'es là quand même. Mais c'est comme si on avait baissé ton intensité de présence. Comme avec une lampe de salon. T'es là, mais tamisé. Bon, je vous dis ça parce que là, je le sens. Ça se pourrait que pendant que je vous raconte, ma voix baisse ou même que l'image que vous avez de moi se mette à tilter. OK, on panique pas. C'est juste les conséquences de la semaine que je viens de passer. OK, j'avais pensé passer la semaine à vous imaginer un conte, mais je pense que je vais passer un conte à vous parler de ma semaine. Bon, d'abord, ça commence, je sortais d'une semaine de fou, le genre de semaine que la vaisselle s'accumule sur le comptoir, j'ai mes derniers pantalons propres sur le dos. Et là, je rentre chez nous. La minute que je mets le pied dans la porte, je le sentais que c'était pas normal. Tout était exactement pareil, mais plus pâle. Ça doit être un manque d'énergie, de fatigue, je sais pas. En tout cas, peu importe le manque, chez nous, on m'a appris, tu t'installes devant TV, puis t'oublies ça. Fait que là, je m'étais pris le forfait Vidéotron. HD. Câble, le gros kit, là, avec grosse TV. Fait que je m'installe. La minute que j'ouvre la télé, j'ai les poumons qui se dessouffrent comme deux matelas de camping. Et là, je réalise tout ce qui me reste à faire. À commencer par aller chercher le courrier. Je sais plus depuis combien de jours que je suis pas allée. Là, je me traîne jusqu'à la boîte à mal. J'ouvre ça, il y a des lettres. J'en ouvre une. Une lettre de Vidéotron pour m'annoncer que j'ai un retard dans mon paiement. Bon. Lettre de Vidéotron pour m'annoncer que... Lettre de Vidéotron? C'est toutes des lettres de Vidéotron. Je veux bien croire qu'ils ont des tonnes de copies. Ont-ils besoin de toutes les envoyer? Je vous le dis, si jamais vous avez un retard avec Vidéotron, ils vous envoient une lettre par jour de retard. Je ramasse tout ça. Je m'en vais sur Internet pour voir comment ça se fait que Vidéotron, c'est pas payé dans mon compte comme ça se fait d'habitude. Fait que je m'en vais sur Accéder, je rentre mon code, je clique.
C'est pas pour dire, avec Marie Fleurette Baudouin, on parle des débuts de Planète Rebelle.
Alors c'est là que j'ai pris le temps, parce que les premiers livres que j'ai publiés en 2002, c'était Jacques Pasquet, Claudette Lheureux, Jean-Marc Massy. Moi, en bonne scientifique, j'ai décidé de faire des collections.
Ouais.
Donc la première collection, c'était le livre disque. André avait déjà fait le format un peu plus grand qu'une pochette de CD, mm-hmm. parce que le livre, puis le CD était dedans. Mm-hmm. Donc ça rappelait à la fois une pochette de disque entre le micro-sillon et le CD, mm-hmm. et un livre. Mm-hmm. Alors moi j'ai pris ça, donc avec la graphiste que j'avais embauchée, on a trouvé le nom, la collection Parole. Je voulais appeler ça Parole vivante, puis après ça, on a dit non, c'est Parole. Parole. Et puis bon, donc les premières années, j'ai vraiment... Ça, c'était la collection avec les conteurs qui faisaient du spectacle vivant. Donc les conteurs actuels qui étaient là. Quand on avait un projet, je demandais aux conteurs, il fallait qu'ils écrivent. Hein. Moi, je commençais par le livre. Hein. J'étais pas conteuse. Donc, quand j'acceptais le manuscrit, le projet, etc., donc on développait ça avec le conteur ou la conteuse. Et non, oui, on allait l'enregistrer live. Alors, c'était plus ou moins bon, et c'était plus ou moins... Mais on le nettoyait, on arrivait à faire les premiers livres de Planète Rebelle. Faut aller les écouter, c'est bon. Et là, on a commencé à faire des projets qui se faisaient sur scène, là, des spectacles, donc plus structurés, avec musiciens, justement. Puis là, les conteurs commençaient à me dire « on aimerait ça faire du studio ». Et puis, on s'est rendu compte qu'on pouvait travailler plus, on pouvait reprendre. Donc, on arrivait à faire des choses vraiment intéressantes. Fait qu'on a commencé 2004-2005. Et là, en 2008, j'ai rencontré Pascal Dubois.
Qui faisait la même chose.
Qui faisait la même chose, mais en France. Il est venu me voir au Salon du Livre à Paris, les éditions, où il dit. Alors là, il me raconte, je lui raconte ce qu'il fait. Puis là, il me dit, mais je fais la même chose. J'aurais pu te dire la même chose pour me présenter. Fait que là, mais lui il venait de la musique. Donc, lui, sa force, c'était vraiment l'enregistrement, alors que moi, ma force, c'était le livre. Mais lui, il faisait que le disque. Fait que là, ça a été vraiment des années d'échange où il m'a fait vraiment progresser. On avait aussi, à cette époque-là, dans les premiers festivals, à chaque festival, il y avait soit table ronde, soit colloque, ou sur un aspect de la pratique des arts de la parole. Donc, il y avait, des fois, ça durait plus longtemps. Donc, j'avais une collection que j'ai appelée Regards, où c'était les actes de ces colloques-là, où c'était la personne invitée qui écrivait. J'ai traduit aussi des conteurs canadiens, Dan Yacheski.
Oui.
Le conteur qui a créé le premier festival de contes au Canada, celui de Toronto. Donc, j'ai traduit des choses pour alimenter la réflexion sur le conte. On a fait sur la formation.
Super, super militant.
Ouais. Moi, c'est quand j'ai acheté Planète Rebelle, je me suis dit, je veux faire partie du milieu en tant que diffuseur, mais diffuseur, je veux faire connaître les conteurs. Donc, Parole pour moi, c'était de présenter un conteur dans son répertoire. À la base, c'était ça. On mettait une petite bio, on faisait des lancements où le conteur racontait, etc. C'était pour faire connaître les conteurs. C'était le tout début. Hein.
Dans ce cadre-là, est-ce que vous étiez soutenu, je ne sais pas, par la ville,
ministère? Oui, au Canada, au Québec, parce qu'on est francophone, donc minoritaire dans le Canada. La littérature, comme... Les autres disciplines artistiques sont soutenues par le Conseil des arts du Canada, par Patrimoine canadien et au Québec par la Société de développement culturel du Québec, la SODEC. Donc, on est soutenus.
Donc, Planète Rebelle était subventionnée.
Absolument. Moi, je m'appuyais vraiment sur le patrimoine traditionnel pour dire le conte, ça a un rôle, OK. C'était très proche pour nous. Hein. Ouais. C'était beaucoup plus proche qu'en France, quand il y a eu le renouveau du conte. Ouais. Ça faisait longtemps que les vieux conteurs
avaient disparu.
Nous, il y en avait encore. Alors, donc c'est ça, je me suis appuyée là-dessus, j'ai fait donc une définition, et donc j'étais soutenue par le Conseil des arts. C'est même eux qui ont créé la niche où les conteurs et Planète Rebelle pouvaient s'inscrire dans un programme, ils appelaient ça la littérature orale.
Oui, c'est ça.
C'est devenu la littérature orale. Alors, moi, j'ai utilisé ça, puis vraiment, j'étais la seule au Canada à faire ça. Donc, les conteurs, ils ont commencé à être demandés dans des événements du livre des événements littéraires, partout dans le Canada. Hein. C'est un boulot. Ça a été tout un boulot. Ça m'a demandé énormément de temps pour réussir à faire, il y a des années où on faisait, ça dépendait combien de revenus que j'avais, mais il y a des années où on a réussi à faire 8-10 livres par année.
Ah, wow.
Et puis, pour faire un livre avec le CD, avec la version audio, ça nous prenait 2 ans.
C'est pas pour dire, avec Marie Fleurette Baudouin.
Je vais revenir aux collections. Au départ, moi, c'était parole, c'était le conte contemporain. C'est ce qui se passait au moment, parce que c'est là que j'ai connu le conte. Mais en 2003, j'étais dans un festival aux Îles-de-la-Madeleine et j'ai rencontré le père Anselme Chiasson, qui était un collecteur, qui était un ethnologue, qui avait collecté les contes acadiens en Acadie, aux Îles-de-la-Madeleine, etc. Et qui avait publié plusieurs livres en Acadie. Il avait même créé une maison d'édition là-bas. Il me donne deux livres, parce qu'ils avaient publié. Puis il me dit, est-ce que tu es capable de republier ça? C'est épuisé, puis il faut que ça vive. Puis là, il me raconte son histoire. Puis là, il commence à me parler des contes du patrimoine traditionnel. Et j'en avais parlé avec Jocelyn, mais là, j'ai pris conscience de
l'importance de ce patrimoine-là.
Donc, on a des archives. Donc, je suis allée aux archives, j'ai lu des vieux contes, etc. Puis, donc, j'ai créé une collection qui s'appelait Mémoire, où il y avait ces contes traditionnels, de tradition orale. Nos vieux contes, comme je les appelle, mais c'est les contes. C'est des contes qui nous viennent des contes français, mais qui ont été racontés ici avec les contes métissés avec les autochtones, métissés avec les anglophones. Tu sais, le Québec, c'est tout ça, hein, c'était anglophone. Je dirais, les cultures principales au moment où il y avait vraiment des contes qui se racontaient, c'était français, autochtones, irlandais et anglophones. C'était les principes. Maintenant, c'est beaucoup d'autres choses qui alimentent le conte et qui fait que les conteurs peuvent raconter des contes de différentes origines. Mais c'était à peu près ça. Notre patrimoine traditionnel, c'est ça. C'est ça, les influences.
Ouais. C'est un travail énorme, hein?
Ah, ça a été extraordinaire. J'ai fait des choses. Je me rappelle quand on a fait les contes de Louis Fréchette. Il y avait un festival qui était dirigé par Carole Legaré à Lévis. Et elle faisait ça dans la maison patrimoniale de Louis Fréchette, qui était un journaliste. Qui écrivait des poèmes, mais qui, à un moment donné, a décidé de collecter et d'écrire des contes populaires. Alors, il a fait des contes originaux et détraqués, Joe Violon, dont les contes de Bûcheron, 4 volumes, et puis, je dirais, de 2012, 2013, Carole Legaré, qui était la directrice, me dit, ça y est, on a les sous, on fait de la maison de Louis Fréchette un centre culturel de la ville de Lévis, et je voudrais qu'on publie quelque chose de Louis Fréchette. Alors, je me plonge là-dedans. La langue, j'avais l'impression de lire notre langue, ce qui est devenu le français québécois. C'était ça. À la fois une belle langue et une langue populaire avec toutes sortes d'expressions qu'on utilise encore, je me suis régalée. Alors j'ai décidé avec mon équipe, hein, j'étais pas toute seule, j'avais une équipe.
Finalement, il y avait une équipe de assez rapidement,
il y a eu une équipe. J'avais 4 employés avec moi, on était 5, parfois on était 6. Il y avait des directeurs de collection, comme la collection Regard, c'était Christian-Marie Ponce. Parole, ça a été longtemps Jean-Marc Massy ou André Lemelin, qui étaient vraiment eux autres dans le conte contemporain. Là, donc, c'était eux. Et ma collection, pour, ma collection de poésie, parce que il y avait, à la fin des années 90, des prises de parole par les auteurs littéraires, par des ça a été le début des performeurs, autant anglophones que francophones. Et puis, donc, toutes les semaines, il y avait un spectacle.
286.
Ouais.
Qui sont, ils sont toujours tous disponibles, on peut toujours les...
Non. Non, ils ne sont pas tous disponibles. Il y en a plusieurs d'épuisés. Mais ce que j'ai fait, c'est que systématiquement, je gardais 3 exemplaires de chaque livre qui avait été publié. Et quand j'ai pris ma retraite en 2022, j'ai demandé au regroupement du conte qui ont une salle de disponible avec une bibliothèque, puis qui avait envie de faire un centre de référence, s'ils voulaient...
récupérer ça?
Ouais, récupérer donc le fonds, qui s'appelle le fonds Planète Rebelle, Marie-Florette Baudouin, Planète Rebelle. Donc j'ai donné tous les livres. C'est pas encore consultable parce qu'on est en train, je suis en train de faire des résumés, des fiches pour chaque chose. Donc ils vont être là, consultables. Ils peuvent être numérisés aussi. Maintenant c'est tellement facile de numériser. Et toutes les l'audio vont être disponibles sur un disque dur pour écouter.
Génial.
Fait que j'espère réussir à faire ça, à ouvrir ça cette année. Mais il faut aménager le local, etc. Le local est petit. Je ne sais pas encore comment on va faire.
Ça veut dire que tu as pris ta retraite en 2022. Planète Rebelle continue.
J'ai vendu. Super. Donc j'ai eu un repreneur.
Génial.
Un jeune homme dans la trentaine. Ouais. Luca Palladino, qui quand il fallait que j'arrête, et là j'ai décidé que j'arrêtais, j'avais des soucis de santé, puis j'ai 70 ans quand même, puis je trouvais que c'est ça, avec les nouvelles technologies, je me sentais un peu dépassée, les compteurs, ils vont vite en ce moment, ils veulent des choses, puis avec la pandémie, donc le numérique a pris une grande place, la vidéo, donc on a fait des vidéos, donc ça, il fallait se fier à des techniciens, et je ne me trouvais pas compétente pour diriger ça. Donc je pouvais engager des gens pour diriger, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Je me suis dit,
allez,
ouais, on passe. J'arrête.
Après 3-4 gobelets de rhum, ça manquait pas. Il leur conte une histoire de Tijan. Il leur raconte ensuite l'histoire de la fois où, perdu en forêt, il avait couché contre un ours dans une caverne pour pas mourir gelé. Puis vint leur histoire préférée, celle du canot volant. Feu, voyons donc, Gauthier, c'est même pas vrai ton affaire. Un petit pet de caraquette, ça a encore le nombril vert puis les mains d'une princesse que ça veut faire son smat. Voyons donc, tu nous charries avec ton affaire, un canot volant. Benjamin le nœud. Un flambant neuf qui voulait faire son smat. Mon petit vingtaine, vrai comme c'est vrai que j'ai pris mon dernier bain à l'action de grâce. Un canot volant, ça existe. Allez me trouver de la graisse de carcajou. Quand il a dit ça, il y a un silence de mort qui s'est installé dans la cabane. On aurait pu couper ça au godan d'or tellement c'était solide. Les gars venaient de se rendre compte que le bonhomme était sérieux. « Dépêchez-vous, bande de pas-croyants !» qui leur crie. De peur de se choquer avec le cook, tout le monde sort de la cabane pour aller trouver son aviron puis son paquetas. Quand ils sont revenus, le bonhomme fait passer le pot de graisse à Aaron en leur disant de s'en mettre partout. Là, écoutez-moi bien. Allez courir la chasse-galerie comme on va faire et s'asseoir, c'est pas pour les pissous. D'abord, sachez qu'il y a des règlements bien sévères. Pour commencer, il faut être un homme pair. Puis ça va être 8 à soir pour remplir le rabasca du foreman. Ensuite, interdit de dire le nom du bon Dieu ou de celui du diable ou même de son maître, la Belzébuth. Interdit de faire des prières. Interdit de boire du vin de messe. Puis surtout, faut être revenu ici demain avant 6 heures le matin. À cette heure, prenez-vous toute la main, on va faire un cercle, puis on va faire le pacte avec Satan. Satan, roi de la terre puis des enfers, nous promettons que si d'ici à demain matin, 6 heures, on prononce ton nom ou celui du bon Dieu, si on touche le clocher d'une église puis toutes les autres petites affaires écrites en trop petit dans le contrat pour que je les dise, on va te donner nos armes. Accabri, accabra, accabran, fais-nous voler par-dessus les montagnes.
Qu'est-ce qui fait quand même que y a encore des gens qui racontent des histoires et puis des gens qui viennent en écouter?
Grâce au conte, qu'on a gardé une identité francophone, nous les Québécois, les Canadiens français, hein, la génération X a s'est fait raconter des contes, donc c'est pas loin.
C'est pas loin, ouais.
C'est pas loin, donc ça a de l'effet, mais pour aller chercher un public qui dise « je vais écouter le conte », comme on n'en parle jamais dans les journaux, c'est pas assez médiatisé. C'est pas assez... les gens, quand ils choisissent des spectacles, ben, ils ont le choix dans plusieurs genres. Hein. Moi, ce que j'aime le plus des conteurs, c'est leur côté humain. C'est des beaux humains. Je dis tout le temps, c'est pas le showbiz, hein, c'est des beaux humains. C'est très rare que t'as des conteurs avec des égos. Moi, regardez-moi, c'est pas ça. Ils ont presque tous, j'allais dire, une cause, quelque chose qu'ils supportent et quelque chose qui les motive derrière.
J'entends. Ouais.
Moi, qui était une militante en environnement à cause de mon amour des plantes, qui était une militante pour la foresterie urbaine, planter des arbres. Pour moi, c'est important ce côté-là. La forêt, c'est omniprésent dans les contes. Ouais. Puis pour les enfants, la forêt, la forêt, je l'ai vécue, j'en ai créé. J'ai planté dans un parc à Montréal, j'ai planté une érablière. Au jardin botanique, on a fait une érablière.
C'est la classe, ça, de dire j'ai créé une forêt.
j'ai planté une forêt, j'ai pas créé. Non, moi j'ai planté une forêt, j'en ai. Mais pour ma génération de Québécois, moi qui est dans la génération des baby-boomers, là, nous, c'est ça, c'était le conte était proche, il y avait des trucs symboliques quand même. Qui était dans l'univers des enfants
comme quoi,
était
par exemple.
Parce que on était presque, moi j'étais élevée à la campagne, on a presque tous été élevés à la campagne. Donc il y avait des gestes dans les vieux contes où le roi il y avait une ferme, hein. Puis il se berçait sa galerie comme mon père, comme mon grand-père, tu sais, comme ma mère, il y avait beaucoup d'associations comme ça
avec des images qui te parlent tout de suite, c'est ça?
Tout de suite. Ouais. Ouais. Même les contes que j'entends qui viennent de d'autres origines, on dirait que ces racines-là sont les mêmes.
Si je comprends bien, là, en ce moment, le Québec est complètement dans ces questions des relations avec le patrimoine culturel des Premières Nations. Comment ça se passe alors dans le conte, tout ça?
C'est une bonne question. C'est sûr qu'il y a une ouverture. On a fait une étude avec une prof chercheur à l'UQAM sur...
L'UQAM, c'est?
C'est l'Université du Québec à Montréal.
D'accord.
Et il y a 5 ans, je dirais, oui, 2018, je crois. Donc, il a fait un sondage, une étude. Elle a fait une étude pour montrer, justement, pour faire un effet... Comment on allait... Il y a un mot très à la mode qui s'appelle inclusion, où on doit... de plus en plus, on a des citoyens de toute origine. Il y a beaucoup d'émigrants, il y a beaucoup de réfugiés, et ça brasse un peu la société. Hein. À Montréal, il y a une certaine... on est un peu comme habitué, ça fait oui. Il y a toujours eu des immigrants des citoyens de d'autres origines, mais là c'est toutes sortes d'origines. Alors, c'est beaucoup, ça nous brasse. Régulièrement, les Québécois ont fait des crises identitaires.
Est-ce que, par exemple, à Planète Rebelle, tu as été dans cette situation-là où il fallait que tu édites un quota, tu avais des quotas de... il fallait que...
Moi, j'ai Oui, oui. Plus si tu avais des auteurs autochtones... Oui. Et si tu avais des auteurs de d'autres communautés culturelles, tu avais plus d'argent.
C'est ça.
Ouais, ouais, c'est un fait. C'est ça. Ouais. Et moi, j'ai contourné ça parce que je leur expliquais, ben moi, les compteurs, j'avais des compteurs de plusieurs origines. Ouais. Bon, Franck Sylvestre, qui est un Français québécois, qui est un Français des banlieues, mais qui vient, en fait, ses origines, il est martiniquais. Oui. Sa famille vient de la Martinique. Donc, moi, je jouais là-dessus. J'avais une conteuse qui était d'origine vietnamienne, tu sais.
Puisque tu parles de Franck Sylvestre, c'est à propos de Franck Sylvestre, il y a eu cette polémique.
Ouais. Parce que lui, il est noir.
Ouais.
Hein, donc, on avait publié un livre, livre pour enfants, qui s'appelait, une histoire qu'il a écrit, qui s'appelait « Le secret de Barbe Noire ». Et dans ça, à la fin, Barbe Noire, il faut qu'il est prisonnier dans une petite boîte, il faut qu'il soit recueilli par le vaisseau hollandais, qui est le vaisseau fantôme. Mais le vaisseau hollandais, il passe le long des côtes. Alors, le petit garçon va aller en Martinique pour pouvoir rencontrer le vaisseau hollandais pour mettre donner la boîte. Et c'est un zombie qui tire le vaisseau. Et c'est des dessins, hein, c'est un album pour enfants, et c'est vraiment la tête du zombie que Franck aimait beaucoup, son zombie. Donc il a fait une marionnette avec la face du zombie, donc c'est caricaturer un noir, parce que le zombie est noir dans l'histoire, avec des grosses lèvres et puis des gros yeux.
Une caricature,
et... Ça, là, c'est les Noirs de Montréal qui ont dit, ben, il peut pas raconter ça. Mais le milieu du conte a pris position dans le sens que, il y avait pas de position à prendre. Ça fait partie de la créativité d'un artiste. Oui, donc, sa vision d'une histoire. Oui, oui, c'est ce qu'on s'est dit. Puis surtout, c'est Stéphanie Benetto que moi j'ai entendu. Il y en a eu d'autres aussi. Il y a eu des articles. Qui a dit, écoutez, nous, les conteurs, ils exagèrent leurs trucs. On dit toujours, si vous ne me croyez pas, moi, les monimenteurs, les menteurs, alors c'est quoi? C'est une tempête dans un verre d'eau. Et les journalistes ont été très corrects là-dessus. Et il a pu continuer à faire ses spectacles. Bon, mais c'est ce qui se passe en ce moment, et ça se passe, l'appropriation culturelle. C'est toute la... Et même les professeurs, ça se passe dans les écoles, qui veulent parler en utilisant certains mots historiques qu'ils peuvent pas, parce que ça choque. Ça choque, ça blesse certaines personnes. On est rendu dans on n'a pas connu ça avant. Moi, j'ai jamais connu ça.
Comme un lissage...
Bon, on parlait de « politically correct ». Là, on parle de « woke ». Faut que les gens soient tous d'accord et dans le même moule, sinon les gens sont menacés, sont même certaines personnes disent, certains artistes ont été menacés de mort.
Carrément.
Puis s'il y a une société qui est non violente, c'est bien les Québécois. Hein? Fait que oui, j'ai l'impression que Planète Rebelle, si j'avais encore Planète Rebelle, tout ça influencerait ce que je publie. André Lemelin, son premier livre de contes qu'il a publié, c'est son livre « Hold Up », qui se passait dans le centre-sud avec des poqués. On dit des poqués ici. Des itinérants, des jeunes de la rue, etc. Et ça a fait un tollé parce qu'il y a des professeurs qui se servaient de ça pour décrire un aspect de la société. Parce que chaque personnage de ses contes, je sais pas, il y avait 6 contes dans son livre, c'était toutes des personnages, il y avait une prostituée, son histoire. Hey,
tu veux dire qu'on pourrait plus faire ça aujourd'hui? On pourrait plus éditer ça?
Oui, moi je l'éditerais encore, mais ça a fait un tollé. Déjà, c'était il a publié ça en 2000, donc ça se prépare depuis longtemps. Hein. Non, moi j'ai pas eu à le faire. Mais j'avoue que, je vais te raconter, un des derniers projets qu'on m'avait proposé, c'est un type qui s'appelle Sylvain Rivard, qui fait des albums et surtout qui a développé beaucoup, beaucoup, qui a fait connaître les vêtements, les vêtements ancestraux autochtones. Il était dans la mode, alors il a fait connaître ça. Et puis, il m'avait envoyé des contes qui se passaient dans un bar avec des autochtones. Et c'était des histoires glauques, comme ça, ça se passait dans un bar. Et puis, je me souviens, mon adjointe a dit, mais on peut pas publier ça. Non, parce que c'est dur. Et puis, l'autre, c'est une prostituée homme. Tu sais, des personnages au banc de la société, là, plus que marginaux, là. Et puis, elle a dit, tu peux pas. Ça a été sa première réaction. Fait que là, j'ai dit, j'en ai parlé avec Sylvain, puis il m'a dit, ben écoute, quand j'ai écrit ça, il faut dire que j'ai écrit ça sur plusieurs années, mais il y en a même que, écoute, je les côtoie encore, parce que j'y fais encore dans les bars, tu sais. Wow. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai consulté une copine autochtone, qui est abénakise.
Et parce donc, que là, tous ces personnages étaient des personnages...
Ah, glauques, vraiment
oui,
glauques.
Autochtones tous.
Oui.
Oui, c'est ça. Donc, l'idée, c'était...
Mais il y avait le mélange aussi avec les piliers de bar blancs, là. Ouais. Tu sais, c'était
l'idée, c'était de pas blesser la sensibilité.
Oui, c'est ça. Et est-ce que c'était vraisemblable? Est-ce que les mots qu'utilisait, parce qu'il y avait un langage assez dur, etc. Je lui avais dit, pourquoi tu veux écrire ça? Parce qu'il dit, ça a été une partie de ma vie. Et j'ai écrit ça sur 20 ans, qui m'explique donc plusieurs trucs. Puis, donc là-dedans, il y avait une poupée, genre Freddy, là, tu sais, une poupée qui est un personnage dans les mythes autochtones. Lui, il s'était fait raconter l'histoire avec la poupée.
Oui.
Donc lui, il l'avait créée, cette poupée-là, puis il l'utilisait dans ses spectacles. Parce qu'il racontait aussi, pas souvent, mais il racontait. Donc
du coup, tu vas avoir une...
Oui, donc j'ai appelé Nicole Obensawin, puis je lui ai dit, Nicole, je vais t'envoyer le texte de Sylvain Rivard. Elle connaissait Sylvain Rivard parce qu'il se disait, lui, métis Abénaki, donc de la réserve Odanak. Puis je lui envoie ça, puis j'ai dit, tu me dis ce que tu en penses.
Est-ce qu'il va y avoir des manifs ou bien...
Ben, moi, ça me parle parce que c'est... Mais c'est parce que je l'ai vécu dans les années... Quand je suis arrivée à Montréal, moi, je suis arrivée au début des années 80. Donc, les bars, c'était de même, c'était glauque, c'était noir, c'était... Là, je ne vais plus dans les bars, c'est peut-être encore comme ça. Alors, Nicole a lu ça, puis a dit, mais c'est tout à fait... Écoute, c'est issu même, je pourrais te dire, les légendes, c'est surtout des personnages légendaires. Ah. Les autres, ils n'ont pas vraiment de contes, ils ont des légendes et des mythes, ils ont des mythes fondateurs, ce que nous, les Canadiens français, on n'a pas, mais eux, ils ont ça. Et puis, elle me dit, mais c'est des légendes, je pourrais te les nommer, puis on pourrait faire... Donc, je lui ai dit, est-ce que tu ferais une introduction?
Magnifique.
Puis tu raconterais ça? Elle m'a dit, oui. Donc, je dis à Sylvain, je vais le faire. Mais mon équipe n'a pas voulu.
Ah! Donc, ils ne sont pas sortis?
Il y a encore tellement à faire, tellement à dire. Tellement. Moi, j'ai fait un petit bout de chemin, hein. Il y a encore des conteurs qui créent des histoires, qui racontent, qui ont des répertoires absolument fabuleux. Et il y a en ce moment, on sait, les sociétés souffrent. On souffre en ce moment. Je ne parlerai pas des guerres, mais on parlait là, du clivage. Ma génération qui dit, mais on va-tu disparaître? Moi, j'ai cru au pays, j'ai milité pour le pays, puis le pays, il est de plus en plus loin, il n'existerait pas. Et le Canada s'en va vers un régime autoritaire, alors qu'on est un pays libéral, mais là, on s'en va avec les conservateurs actuels. En tout cas, si ça continue comme ça, c'est...
Vous n'êtes pas les seuls?
Non. Donc, il y a tellement à dire par les contes. Et là, tout cet aspect de conte social, en ce moment, au RCQ, parce que là, je suis présidente du conseil d'administration du regroupement du conte au Québec, et il y a tout ça, cet aspect-là des contes sociaux. Donc, on a créé un programme qui s'appelle les rencontres paroles vivantes, où les conteurs vont raconter dans... les écoles, dans les villes, dans des communautés, dans les résidences de personnes âgées. C'est passionnant, parce qu'ils ont des répertoires vraiment intéressants. Donc, il y a encore à faire. de l'audace.
Est-ce que tu dirais que c'était que c'est ça ta qualité principale, l'audace?
Ah ben oui, oui, je l'étais. Je l'étais pour imposer ça comme politique éditoriale auprès des conseils des arts, etc. Fallait que je sois effrontée là.
Marie Fleurette, merci de ce parcours.
Ça m'a fait plaisir.
Ben, écoute, moi aussi.
Puis je salue ben, toutes les amies ouais. Conteurs, ouais. Conteuses.
Ouais. On éteint ?
On éteint.
Allez, c'est parti. J'éteins.
Bon, bien, c'est fini pour aujourd'hui. Guettez sur votre radio, votre podcast préféré. Il y aura d'autres émissions enregistrées chez nos cousins québécois, notamment avec Mo Carpel. Vous pouvez, comme d'habitude, vous envoyer des mots doux sur la page Facebook de l'émission, évidemment. Vous pouvez en savoir plus sur Planète Rebelle en allant voir sur leur site internet. Et on ne saurait trop, par ailleurs, vous suggérer d'aller sur le site des éditions Oui Dire et vous abonner à la revue de La Grande Oreille. En attendant de vous retrouver, au plaisir et salut !